Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
L'école n'a aucun sens aujourd'hui avec les ça, c'est fini dans 10 ans, moi, mes enfants, je suis désolé, ils n'iront pas à HEC et j'irai pas payer HEC pour mes gosses.
Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvelle École, comme tous les lundis. Cette semaine, j'accueille Jean de la Roche-Brochard. Jean est partenaire chez Kima Venture, où il travaille directement avec Xavier Niel pour investir dans une à deux startups par semaine. On parle de son parcours, pas toujours en ligne droite, de ses erreurs de jeunesse, de pourquoi il aime son travail et de comment il veut éduquer ses enfants. J'espère que ça vous plaira. Comme toujours, pensez à vous abonner sur SoundCloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires ou toute remarque qui me permettrait d'améliorer le podcast pour vous, puisqu'après tout, c'est aussi pour vous. Bonne écoute.
On va commencer. Okay. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Je suis avec Jean de la Roche-Brochard.
Salut.
Salut Jean. Donc Jean, t'es partenaire chez Kima Venture. C'est le fonds de notamment Xavier Niel.
Ouais.
Vous êtes un fonds que vous appelez Super Angel.
Ouais, parce qu'il y a que Xavier qui finance.
Ok. Et vous investissez dans des startups, donc 2 à 3 par semaine, 100 par an environ.
Ouais, c'est ça.
Vous avez un portefeuille de plus de 500 boîtes.
Ouais.
Toi, t'es, à titre perso, t'as levé environ 100 millions pour plus de 30 boîtes.
Ouais, c'est ça.
Et t'investis en fait dans 1 à 2 startups par semaine avec Xavier Niel. T'es au bord de boîtes que j'aime bien, du style Payfit, que j'aime énormément.
Ouais, pour, ma cam de ouf, Payfit.
Quand ils m'ont sauvé la vie sur mon ancienne boîte.
Ah, c'est cool.
Save, Zenly, Iban First, et puis une autre boîte dont on parlera tout à l'heure, Sourced,
ouais,
que je trouve assez intéressante. Mais en fait, on va parler de Kima, on va parler de l'investissement un peu plus tard, mais il y a un truc qui m'a direct interpellé avec toi,
ouais.
C'est que tu te présentes, notamment dans les articles que tu as écrits, que j'ai lus, tu te présentes souvent comme un entrepreneur qui a échoué, ou pas, même pas vraiment un entrepreneur, et tu dis je suis pas un entrepreneur, tu dis j'ai rien fait entre 0 et 25 ans.
Ouais.
Alors qu'en fait, quand on regarde ton parcours, moi j'ai l'impression que t'es un méga entrepreneur, et que depuis que t'as 10 ans, tu fais des projets, et que tout ce que tu fais dans ta vie tourne autour de l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi tu présentes ça comme ça?
Parce que j'ai rien fait. Alors il va y avoir un peu de franglais, hein. Enfin, je suis désolé, mais
c'est pas grave, les auditeurs seront cléments.
J'ai rien fait de meaningful, en fait, de 0 à 25 ans. J'ai fait plein de petits projets que j'ai menés jusqu'à une certaine phase, et je suis jamais allé à l'étape d'après. Tu vois, quand j'ai fait mon jeu de société, je devais avoir, je sais plus, 10-12 ans, pour le présenter au concours international, le Boulogne-Billancourt. Je fais mon jeu, j'avais passé du temps à le faire, j'avais écrit les règles et tout. À un moment donné, le PC plante, c'était le PC de mon beau-père. Je perds les règles. Bon, laisse tomber le jeu, je l'ai jeté, je me suis cassé, j'ai arrêté, ça m'a saoulé.
Mmh.
Je voulais faire de la location d'appartement à la Airbnb. J'avais un site qui s'appelait Traveling World, c'est marrant. Et j'avais fait ça avec 2-3 apparts. J'aurais dû développer à 10, 20, 30 apparts, et je suis jamais allé au-delà, en fait.
Ça, c'était ce que tu faisais pour les fêtes, les business trips de financiers, ou les jeunes assez riches, c'est ça?
C'était pour payer mes soirées en boîte avec mes potes qui n'avaient pas de problème d'argent.
Ah. Et pourquoi t'as, pourquoi du coup tu l'as pas emmené jusqu'à 20, 30, 40 appartements?
C'est une bonne, franchement, c'est une bonne question. Je me la suis jamais reposée depuis. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y avait de la, il y avait beaucoup de d'inachevé, de l'amateurisme, un peu de la timidité aussi sur le terrain, tu vois. Si tu veux faire un, si tu veux monter ta boîte, il faut pas que t'aies peur d'aller sur le terrain, il faut pas que t'aies peur de parler à tes users. Il faut qu'à chaque petit obstacle, barrière que tu vois, il faut que t'aies la niaque de la sauter, quoi. Et moi, je la trouvais pas cette niaque. D'ailleurs, c'est con, mais je fais toujours le parallèle beaucoup entre les startups, l'entrepreneuriat et le dating. Et moi, j'étais nul en dating. Putain, j'étais incapable d'aller voir une fille et lui dire bonjour, quoi.
Donc toi, tu faisais le site de chez toi, tu faisais le produit et ensuite tu le posais et tu te touchais plus vraiment ou t'allais pas vraiment parler aux gens qui pourraient l'utiliser.
Ouais, j'allais pas vendre. Ouais, je faisais pas les choses jusqu'au bout, quoi.
Parce que pourtant, par exemple, à 12 ans, tu dis que tu vendais des exemplaires de journal satirique,
ouais,
et que ça
énorme,
t'avait
ça.
Attiré des ennuis.
Ouais.
Donc quand même, t'es dans la vente hyper hyper jeune. Et qu'est-ce que tu, à 16 ans, tu développais plein de sites web.
Ouais, c'était l'envie de créer.
T'avais l'envie de créer.
Ouais, l'envie de créer, c'était bien. Et puis l'envie de créer. Et en plus, ce qui me fait kiffer, c'est tu prends une situation de marché donnée. Essayer de rentrer par une porte par laquelle personne est rentré, quoi. Et quand j'étais à l'école, mais pareil, tu vois, moi je suis arrivé, donc mes parents ont divorcé, on était dans le 13e, on arrive dans le 16e chez mon beau-père, je débarque à Janson de Sailly, collège de petits gamins blindax.
Et toi, tes parents,
moi, j'avais pas
tes
trop
parents,
de gamins sur moi. Moi, ma mère, elle bossait à la Cité des sciences et l'industrie pendant 20-25 ans. Maintenant, elle est à la RMN, Réunion des musées nationaux. Et on n'avait pas une thune. Et donc, à un moment donné, quand j'ai vu que je pouvais choper 3 francs à Jérémy Boisise en lui vendant un truc que j'ai fait sur papier en un quart d'heure, bon, bah vas-y, quoi, tu vois.
Et ça t'a attiré des ennuis?
Ouais, parce qu'en fait, le journal satirique, j'avais fait un espèce de poème satirique sur une nana, je mettais pas son nom, mais on savait qui c'était, et je me suis fait choper par le proviseur et je me suis fait faire renvoyer 3 jours.
C'était ton face match, comment ça s'appelle le truc?
Ouais,
de
c'était ton face match, ouais, Autornote.
Autornote, ouais. C'est ça. Mais c'était pas Autornote son truc, parce qu'Autornote, c'est d'autres types qu'il avait fait ensuite.
Ouais,
Zuckerberg, il avait un truc qui s'appelait face match, je crois.
Je sais pas. Mais donc, le truc, c'est que je faisais ça et j'allais récupérer les articles, que je les avais récupérés dans d'autres bouquins. Donc j'allais sur le petit Windows 95 de mon père, je tapais les articles, je les imprimais, j'avais tout fait chez mon père avec sa photocopieuse, son imprimante et tout, donc moi j'avais pas dépensé d'argent là-dessus, tac tac, j'avais agrafé tout ça et je les avais vendus à l'école la semaine d'après.
Donc tu vois, moi ça me fait penser aux histoires des entrepreneurs américains qui ont leur stand de limonade, et parce que moi j'étais pas du tout dans les, j'avais même pas d'ordinateur en fait avant mes 15 ans, et toi tu baignais un peu déjà là-dedans assez,
ouais,
tôt finalement, parce que t'es
en fait, parce que mon père un jour est venu me voir, j'avais 15 ans, et il m'a dit, j'ai fait mon stage, il a un restaurant et puis il a une maison dans le sud avec de l'hébergement, et il m'a dit, j'ai fait le site de mon restaurant, ça m'a coûté 30 000 francs, c'est hors de question que je dépense un centime pour le second site, quoi. Donc voilà un bouquin, lis-le, démerde-toi et fais-moi un site. C'est comme ça que ça a commencé.
Site. Et c'est là que t'as trouvé que tu pouvais acheter Restaurant Paris sur
la guerre, mec. En
AdWords.
Fait, c'est dingue, c'est mon père, mais c'est même pas moi, c'est mon père un jour qui me dit, ouais, Jean m'a parlé d'un truc, Google AdWords, il paraît que c'est dingue, tu peux acheter des mots-clés, ça finit ta visiteur sur ton site et tout. Et donc, on a juste pris les mots-clés Restaurant Paris, Restaurant Romantique Paris, 5 cents du clic, on avait un formulaire de réservation, et je sais pas, on a dû générer, mais sans déconner, tu dépensais 10 000 et tu faisais du x10, x15, x20 en ROI, quoi.
Et maintenant, ça coûterait, je passe 10, 100 fois plus fin.
Je cherche même pas à comprendre. Ouais. On a arrêté au bout de quelques années, justement, c'était trop cher.
Et du coup, ça aurait été quoi, qu'est-ce que j'entends par quelque chose quand tu dis meaningful, donc il y a du sens, ou
bon,
d'important,
fait,
d'important, ou qu'il y a du sens?
Lancer, si tu veux être ingénieur à un moment donné et lancer un micro-projet comme ça, c'est à la portée de tout le monde. Ceux qui font la différence à la fin de la journée, c'est ceux qui, à chaque fois qu'ils atteignent une étape comme celle-là, ils la dépassent et ils vont aller chercher l'étape suivante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris qu'après, quoi. Et voilà. Et c'est de l'autodiscipline et t'apprends, quoi. Mais donc, ouais, il n'y a rien de remarquable dans tous ces petits projets, tous ces petits trucs, parce que Parce que je suis jamais allé au fond, quoi, au bout.
Et qu'est-ce qui a fait, tu me dis, je m'en suis rendu compte après, que la différence était d'aller plus loin. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte de ça?
Je m'en suis rendu compte... Quand est-ce que je m'en suis rendu compte? Donc en fait, 25 ans, j'ai commencé à faire de l'IPO sur Alternex dans un petit groupe qui s'appelait Avenir Finance Corporate. Lehman Brothers est tombé 9 mois plus tard. Comme moi, j'étais arrivé en stage, ils m'avaient embauché 3 mois après. J'étais pas très cher, je bossais comme un taré parce que bah, je venais d'arriver, quoi, comme n'importe quel mec qui débarque. Quand Lehman Brothers est tombé, dans mon département de 15 personnes, sur un groupe de 100, ils ont viré 14 personnes et je me suis retrouvé tout seul avec 3 managing directors. En fait, les 3 managing directors, c'est con, mais à ce moment-là, je les ai sentis, tu vois, pas la dalle, pas brillant, pas exceptionnel. Et puis
ils étaient beaucoup plus âgés que toi.
Ouais, beaucoup plus âgés. Et puis tu vois, tu regardes ça et tu dis, mais merde, tu vois, c'est pas ça le modèle que je veux. Je veux pas me retrouver à 40, 50, 60 ans en me disant que, bah, en fait, je me suis installé dans les pantoufles et ça a marché, quoi. Donc j'ai quitté ça pour monter la boîte de conseil. Là, tu te retrouves confronté quand même au fait que, tu vois, t'es payé par les ACDIC très peu et qu'il va falloir que tu commences à engranger du cash pour pouvoir le mettre en banque, pour pouvoir te payer dans quelques temps. Moi, après, c'est con, mais ma femme est tombée enceinte en 2000, en janvier 2010. Elle bossait chez Orange.
Donc, t'avais 25, 26 ans.
J'avais 26 ans, ouais. Donc, ma femme tombe enceinte, janvier 2010. Elle bossait chez Orange. Elle venait donc, elle gagnait plus d'argent que moi. Hein. Je gagnais, je sais pas, je faisais 3 000, 3 500 euros par mois, je crois, net. Et... Donc tu fais un gosse, t'achètes un appart, tu vois tes beaux-parents te disent ah, t'achètes un appart.
Est-ce que c'est quelque chose qui te, c'est quelque chose qui te stressait qu'elle gagne plus d'argent que toi à l'époque?
Alors aucune importance.
C'est importance.
Ah ouais. Oh, zéro. Je suis jamais posé la question.
Oui, parce que c'est un truc qui revient souvent.
Ah ouais. Ouais. Moi, je trouve ça marrant, moi, les faux débats comme ça. Ça me fait ni chaud ni froid. Okay. Et donc bah tu vois, donc t'achètes un appart, tu fais un gosse et en fait t'as une espèce de pression extérieure qui se crée. Et donc il y a deux choses dans ce cas-là. Soit cette pression extérieure tu la prends et elle te tu vois, ça devient un moteur et c'est cool. Soit tu la prends pas ou mal et puis bah écoute, je pense que c'est la merde, quoi. Et moi ça m'a boosté grave. J'ai adoré cette pression là. Et en fait j'ai adoré cette pression là parce que je me suis rendu compte que j'avais de la chance, tu vois. J'avais de la chance parce que j'habitais à Paris, parce que j'avais des parents qui, tu vois, enfin qui étaient à côté, qui vivaient pas trop mal. J'ai des amis, j'ai une femme, j'ai des gosses. Tu vois, enfin la vie roule. J'ai pas à me plaindre. Je sais m'exprimer, je sais bosser. Donc je me suis dit, putain, j'ai une chance de malade. Maintenant, faut que je la prenne. C'est complètement con de la laisser, tu vois, c'est complètement con de se laisser choper par de la médiocrité. Quand t'as atteint le step 1, bah, c'est bon, il faut passer au step 2 maintenant.
Et d'ailleurs, ça a plutôt pas mal marché. Vous avez closé quoi, 9
On a closé 9 deals les 18 premiers mois avec mon associé de l'époque. Et ensuite, j'ai été spoté par un mec qui s'appelle Pascal Mercier, qui lui fait des levées de fonds, mais depuis, putain, c'est presque 20 ans, quoi. Et quand mais en fait, on s'est rencontrés au détour d'un tweet par hasard.
Ouais, en DM, en conversation privée, non?
En fait, j'ai retweeté un truc et j'avais pas la place pour mettre son nom.
Tu l'as pas mentionné, c'est ça?
Ouais. Il m'a dit, ouais, Jean, t'es gentil, mais si tu veux, quand tu me retweets, tu laisses mon nom, quoi. Je dis, ok. Donc, j'ai rechangé mon tweet et il m'a dit, bah, by the way, viens prendre un café, me raconter tes levées de fonds. J'ai pris un café avec lui. Au bout d'une demi-heure, il dit, bon, donc c'est quoi la suite pour toi? Je lui dis, bah, la suite, c'est que le numéro 1 m'embauche, donc faut que tu m'embauches, quoi.
Et tu lui dis ça comme ça?
Ouais.
Mais à ce moment, t'avais encore ta boîte avec ton associé. Ouais. Mais tu voulais bosser avec ce type.
Ouais, je savais que... Donc moi, j'étais dans un cycle court parce que j'avais commencé à bosser tard. Vraiment bosser tard. Donc je savais qu'il fallait que je fasse... Que tous les gens faisaient en 3-4 ans, il fallait que je le fasse en 2 ou en moins que ça. D'ailleurs, mon beau-père, ça le rendait dingue. Donc le mari de ma mère, il disait, putain, mais Jean, mais t'as vu la gueule de ton CV? Tu changes tous les 2 ans? C'est quoi ce bordel? Je dis, bah ouais, mais... On n'est plus dans une vie carriériste maintenant, quoi. Faut avancer. Et donc, je savais que le next step, c'était de bosser avec quelqu'un qui lui faisait le métier depuis longtemps, qui pouvait être mon mentor, quoi. Et parce qu'elle était mon premier mentor, en fait, professionnel, pour de vrai.
D'accord. Et t'as bossé avec lui?
Beaucoup progressé avec lui.
T'as beaucoup progressé avec lui?
Ouais, énorme.
Qu'est-ce qui t'a apporté?
De la clarté dans la vision et dans l'exécution du métier. C'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique et voilà, qui pose toujours les bonnes questions, qui a une idée claire de ce qui de des business, des gens et tout. Et donc bah, rien t'apprend par ce prisme-là. Et puis ensuite, j'avais un vrai boss, tu vois, alors que j'avais jamais eu de vrai boss. Donc t'as un vrai boss, c'est un mec à qui tu rends des comptes, quoi.
Pourtant, t'avais encore l'envie de créer à ce moment-là, puisque ouais. Sur le côté, tu ouais. T'es mis à lancer une nouvelle boîte.
Ouais, j'avais encore envie de créer. En fait, j'ai fait le deuil, j'ai fait le deuil. J'ai accepté à 100% ma vocation d'investisseur, entre guillemets, à partir de 2014, je pense, un truc comme ça. Mais en fait, avant ça, ouais, j'ai créé une boîte qui s'appelait... J'ai vu le succès de Songpop, qui était le jeu multiplayer asynchrone mobile sur les musiques, le succès de Draw Something qui avait été racheté par Zynga, et je me suis dit bon bah tu prends multiplayer asynchrone et tu l'attaches à quelque chose d'autre, quoi. Donc on avait fait ça sur les images, j'avais levé un petit seed 70 000 balles avec des anciens clients
pendant que t'étais dans ton boulot,
ouais, et avec l'accord de Pascal.
D'accord.
J'ai mis en place une team et puis on a bossé sur ce projet là qui est sorti, qui a marchoté, qui a jamais excellé. Et puis là, je pense que c'était aussi une autre leçon, c'était encore une fois, j'avais cherché un échappatoire en essayant de faire autre chose que je pouvais pas mener à bout parce que j'avais un métier à côté, et c'était une connerie, quoi.
Pourquoi tu penses que tu cherchais des échappatoires comme ça?
Je n'en ai strictement aucune idée. Je me suis même pas posé la question, ça a toujours été comme ça. J'avais tout le temps mis l'idée à la minute, je voulais faire quelque chose, enfin, je sais pas.
Moi, je sais que c'est un truc que j'ai beaucoup fait.
Je pense que c'est un truc de jeunesse, en fait.
Commencer des choses, et dès que tu commences, t'as envie d'en faire plein d'autres parce que t'as l'impression ouais. que t'as... Moi, j'ai l'impression parfois que j'ai pas le temps. Il faut que je fasse tout en même temps. Alors qu'en fait, sûrement que ce serait plus efficace.
C'est une erreur de jeunesse. C'est juste que tu vois, tu deviens un peu plus mature avec le temps qui passe. Il y a des gens qui sont très matures, très jeunes. Moi, j'ai mis du temps, tu vois. Enfin, c'est con. C'est... enfin, tu vois. J'étais encore plus avant d'être majeur, quoi. Enfin, tu vois.
Et du coup, qui t'a fait rejoindre The Family aussi tôt, parce que The Family était au tout début, et en quoi, septembre 2013, t'as rejoint The Family.
Donc c'est une histoire. Donc tout ça recoupe avec le sujet initial quand ma femme est tombée enceinte et que on a acheté notre premier appart et que tu vois les fins de mois étaient pas faciles. Quand tu décides de faire face à ce genre de responsabilité, tu dois faire face aussi au fait qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que tu prennes un risque qui est inconsidéré pour la plupart des gens, mais qui t'empêchera pas de rebondir si tu te plantes. Et donc, au moment où je faisais de la levée de fonds, c'est un métier très rémunérateur. Quand t'es bon, un bon leveur de fonds indépendant, c'est un mec qui peut, franchement, il peut torcher 1 million d'euros par an, quoi. Mais facile. Ce qui se passe, c'est que moi, à un moment donné, je me suis retrouvé à pas être en adéquation personnelle avec mon boulot pro, qui était de vendre des boîtes à des investisseurs, vendre des boîtes dans lesquelles j'aurais pas investi si j'avais été investisseur, quoi. Donc je prenais un mandat, je faisais la levée de fonds. Si t'étais investisseur et que tu me demandais cash, genre Jean, est-ce que t'investirais dans cette boîte, la réponse était non dans 80% des cas. Et donc tu te retrouves un peu, tu vois, le cul entre deux chaises, entre ce que tu dois faire, qui est ton métier, et ton purpose, qui est pas aligné, quoi. Et donc à ce moment-là, mon kiff, j'avais fait Capitaine Train en 2011. Et ça a vraiment été une révélation. C'est vraiment le genre de boîte sur lesquelles, enfin, tu vois, qui m'ont fait réaliser plein de choses et que j'ai kiffé.
Ça t'a fait réaliser quoi, par exemple?
Ça m'a fait réaliser que les meilleurs deals venaient pas du consensus. Et donc, que pour bien faire le métier d'investisseur ou faire des bons choix dans la vie, c'était pas une question d'écouter ce qui se passe autour et ce que le consensus te dit. C'est d'avoir un chemin de pensée clair et d'être fidèle et consistant par rapport à ce que tu penses et ce que tu cherches. Et Capitaine Train, ça a été un choix d'instinct. Et après, ce choix d'instinct m'a fait réaliser plein de choses sur lesquelles tu raisonnes, quoi. Donc je sais pas, sur le principe des monopoles, sur le fait que des petits gars très techniques peuvent venir bousculer des géants qui ont des legacy systems qui datent d'il y a des plombes, que c'est parce que justement on te dit qu'il y a pas de marché, que personne essaye, qu'il y a potentiellement une opportunité qu'il faut aller choper. Tu vois, c'est le cas d'un Pefit sur la paix, c'est le cas d'un Alan sur la mutuelle. C'est le cas d'un IBAN First sur la banque. Enfin, il y a vraiment des grosses opportunités. Et donc, ça, c'était génial. Et ça m'a fait réaliser aussi que j'adorais le seed. J'adorais le venture, j'adorais ces jeunes boîtes. Et donc, en mars 2013, je me suis dit, bon, OK, là, j'en ai marre de faire le levée de fonds. J'ai envie de faire du seed, être investisseur en seed. Et à ce moment-là, Jérémy Bérébit, qui m'a Ventures, qui gérait Kima Ventures, était en train d'embaucher deux associates, deux juniors. Et je m'étais dit, putain, le job de rêve, ce serait d'avoir le job de Jérémy Bérébit, quoi. Mm. Et en fait, moi, j'ai commencé à bosser sur un pitch deck de seed fund que j'ai pitché à quelques personnes. Et j'en ai parlé à Martin Mignot, chez Index, qui m'a dit, écoute, Jean, on vient de mettre de l'argent chez The Family. Je te fais une intro à Oussama, rencontre-le, je pense que ça va fitter. Et deux semaines plus tard, je posais madame. Voilà. Et à l'époque, quand j'ai posé madame, il n'y avait pas 10 000 euros dans le compte de The Family. Vous n'avez pas de quoi me payer 3 mois plus tard. Donc, Oussama m'avait fait un engagement moral, mais en même temps, moi, je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe? Worst case scenario, je suis responsable d'apporter ma part de réussite dans The Family. Si j'y arrive, ça me paiera. Si j'y arrive pas, c'est que j'ai échoué. Il faudra que je rebondisse, il faudra que je fasse autre chose. Bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Je ferai chauffeur Uber, je ferai serveur dans un restaurant, je ferai n'importe quoi qui me permettra de rebondir et de repartir après. Mais à un moment donné, il faut prendre des risques dans la vie, quoi.
Ouais, donc les risques, en fait, t'ont jamais empêché de bouger, de prendre des décisions assez fortes.
Non, et puis tu vois, c'est vrai, évidemment, je me serais frité avec ma femme, je serais parti un peu en couille, mais bon, on avait un appart, on aurait pu le vendre. Tu vois, je pense qu'on aurait pu avoir 3, 4, 5 ans de vie tranquille si vraiment il y avait eu un pépin. Et puis j'aurais recommencé la levée de fonds, tu vois, j'étais bon dans le métier, tu vois, la levée de fonds ça crache, donc j'aurais refait ça. C'était un faux débat.
Ok. Et donc t'es resté 2 ans chez The Family.
2 ans chez The Family. Donc The Family, moi j'étais arrivé avec l'idée de monter un seed fund au sein de The Family qu'on a finalement pas fait.
Pourquoi vous l'avez pas fait?
Pourquoi on l'a pas fait? Parce que pour monter un seed fund, il faut une équipe de gestion expérimentée, des vétérans, etc. Donc, tu es obligé de composer avec des gens extérieurs au marché. Et nous, chez The Family, notre conviction, c'était que les gens du marché n'étaient pas adaptés à la nouvelle vague d'entrepreneurs et donc que c'était un peu se prostituer que de vouloir recréer un fonds avec des vétérans du marché, quoi. Ça n'avait pas de sens. Mmh. Donc, on s'est dit, OK, bon, bah, c'est pas grave. On va plutôt aller bosser avec des business angels qu'on va faire rentrer sous forme de syndicats dans les boîtes. Et donc, moi, j'ai apporté la pratique de levée de fonds chez The Family. J'ai présenté The Family et les entrepreneurs de The Family à tous les investisseurs de la place. Après, on a fait coup d'État. J'ai fait coup d'État à lever des fonds.
Qu'est-ce qui t'a attiré à l'origine dans The Family? Qui a fait que ça a fité?
L'authenticité. L'authenticité. En fait, le problème de tout marché, toute activité liée à l'argent se fait cannibaliser par... j'arrive pas à trouver le mot, se fait cannibaliser par l'argent, par le vice de l'argent, quoi. Donc tu prends le marché du venture, le marché des investisseurs en général, les intérêts sont désalignés avec les entrepreneurs, c'est des mecs qui sont perdus toute authenticité, quoi. Ils vont toujours regarder leur intérêt avant de regarder l'intérêt de l'entrepreneur, ils vont rarement être alignés, t'es dans un jeu de négo permanent alors que le but justement c'est de t'associer, c'est très très bizarre. C'est aussi pour ça que je voulais bosser avec Xavier et au sein de Kima, parce qu'on est dans cette logique d'authenticité où nous, on cherche à backer et à accompagner des entrepreneurs. Et l'argent est une conséquence du bon travail qu'on fera. Mais c'est pas une cause.
Comment s'est fait la transition d'ailleurs?
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'ai apporté la pratique de levée de fonds, on a eu pas mal de VC, je faisais de la sélection de deals, etc, etc, etc. Et puis à un moment donné, bah c'est con, mais moi, tu vois, j'avais des cycles assez courts, 2 ans, je prenais un max de learning, et puis après, je passais à la phase suivante. C'est comme ça que j'ai fait, tu vois, un peu d'IPO, perso, levée de fonds, avec Pascal, plus The Family. Et là, je commençais à atteindre mon palier perso, où je me suis dit, OK, c'est quoi le next step, quoi? Est-ce que je continue et je monte autre chose au sein de The Family, ou est-ce que je fais un tremplin où je vais pouvoir encore accélérer à la fois mon impact perso et mon impact sur le marché? Et la seule opportunité qui pouvait fitter, c'était celle avec Xavier. Et l'histoire, c'est que j'ai envoyé un email à Xavier en mi-2014, pour lui parler de Capitaine Train, parce qu'on avait Jean-Daniel avait du mal à trouver son Series B. C'est un peu la blague quand même. C'est-à-dire que Capitaine Train, on a eu du mal à lever le seed, on a eu du mal à lever le Serie A, et on a eu du mal à lever le Series B. Il m'a appelé un peu embêté en me disant, écoute, rien, on n'a pas de touche, quoi.
Du coup, t'as écrit avec Xavier Niel.
Donc je lui dis, écoute, bah moi, capitaine train, ça meurt pas, quoi, tu vois. Je me bats.
Tu utilisais le produit aussi?
Ah ouais, tout le temps. Ouais. Donc j'ai contacté Alven, qui à l'origine n'était pas sur la liste d'investisseurs à contacter parce que ils pensaient qu'ils allaient faisaient pas de series B dans lesquelles il y avait déjà des investisseurs. C'est pourtant eux qui ont fait le deal à la fin. Et puis j'ai contacté Xavier, à qui j'ai parlé, capitaine train, évidemment, qui connaissait. Qui m'a dit, ah, mais j'adore Capitaine Train, ravi de rencontrer Jean-Daniel. Il a rencontré Jean-Daniel. Et moi, mon objectif, c'était de fédérer autour de Xavier un syndicat d'investisseurs pour pouvoir leader le round, quoi. Donc, un coup de ticket de 500 000 à 1 million, ce qui n'était pas facile. Et puis, finalement, Alven a fait le deal. Et Jean-Daniel a dit OK à Xavier pour un ticket classique de 150 000. Et Xavier a fait le deal avec Kima. À ce moment-là, Jérémy avait envie de faire autre chose. Donc, il est parti de Kima. Et puis, j'ai dû présenter un ou deux deals en plus à Xavier. On ne s'est jamais rencontrés, hein, c'était que par email. Et un jour, il m'a dit, bah, écoute, passe me voir, tu vois, on se rencontre. Voilà, on a parlé 2 heures, il ne m'a pas décroché un mot sur Kima.
C'était comment la conversation alors?
C'était qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe chez The Family. On avait parlé un peu d'Algolia aussi, parce que c'était un deal qu'il aurait bien voulu faire. De la manière dont on faisait les choses chez The Family. Je sais plus, de plein de trucs, tu vois. 2 heures, assez cool, hyper détente. Et à la fin, je lui dis, bon, donc Kima, c'est quoi la suite? Et il me dit, c'est-à-dire, je dis, bah, je sais pas, Jérémy s'en va et tout, donc j'imagine que tu vas recruter quelqu'un d'autre, quoi. Et il me dit, ah, mais non, tu sais, on a 2 associates, ils font le job, Kima, ça tourne, c'est cool, quoi. J'étais dégoûté. donc je suis sorti, et en fait, ils m'ont appelé quelques semaines après. Et j'ai commencé, c'était mars 2015, j'ai commencé à bosser en septembre 2015, c'est la deuxième fois que j'ai rencontré Xavier de toute ma vie, c'était en mars 2016.
Donc c'est un type qui reste en retrait.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Est-ce que c'est un type qui reste en retrait? C'est un type discret, ça c'est sûr. Et après, tu vois, je savais pas quoi dire si je le voyais toutes les semaines, quoi. On s'envoie beaucoup d'emails, on échange beaucoup, les choses sont assez simples, directes, tu vois, efficaces, sympathiques, honnêtes avec lui et tout, ça roule, tu vois. Je pense qu'on a une bonne, je pense qu'on bosse bien ensemble, quoi. Mmh. Voilà. Et quand on se voit, c'est sympa. Et quand on se voit pas, on fait autrement. Et puis, il reçoit 1500 mails par jour. C'est une grande fortune de France et il a 10 projets à la fois, quoi.
J'ai entendu plusieurs fois qu'il reçoit 1500 mails par jour et qu'il répond à tous ses mails.
Oui, c'est vrai.
Il répond à tous ses mails.
Tu peux essayer.
D'accord. Moi, je vais.
Et c'est d'ailleurs le. C'est d'ailleurs
je vais
le...
prendre au mot et je vais essayer de l'inviter sur ce podcast.
Ouais, alors, non, parce qu'il le fera pas. Enfin, je pense pas qu'il le fera. Tu regardes, mais je pense pas qu'il le fera. Mais en tout cas, il te répondra. Mais c'est dingue, ouais. Il répond à tous les emails.
Et toi, tu fais pareil, non, en plus? T'essayes de répondre à tous tes emails?
Bon, attends, moi, Xavier reçoit 1500 emails par jour et répond à tous les emails. Moi, je reçois 300-400. Je serais une merde si je serais pas capable d'y répondre, quoi. Tu vois, non, c'est un exemple, je suis obligé.
Non, mais parce que ça, c'est un truc que j'ai vu qui était important chez toi. Ouais. Tu parles beaucoup du inbox zéro.
Ouais, c'est
que t'essayes d'avoir 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche.
Exactement.
Mais c'est une stratégie, mais parce que moi, je connais d'autres personnes qui ont une boîte mail avec 32 000 emails non lus.
Je sais pas comment ces gens-là font. Moi, j'aime bien avoir l'esprit clair, tout le temps.
Il n'y a pas un moment où tu reçois trop, justement, de
Si, tu te laisses déborder régulièrement. Mais c'est des périodes passagères. C'est des périodes passagères. et c'est pas très grave. Non, non, mais de temps en temps, c'est un peu débordé, mais rien de méchant.
Toi, t'es assez axé sur... Enfin, ça va être un sujet qui est assez important pour toi, l'organisation.
Ouais, grave.
La sauvegarde du temps.
Pas la sauvegarde du temps, mais en fait, on nous a appris, à l'école, on nous a appris deux choses qui sont... Si tu veux, on t'ancre dans la tête pendant plus de 10 ans, deux choses. La première chose, c'est que l'apprentissage doit être quelque chose de lent, parce qu'en fait, tu t'adaptes au... T'as une classe de 30, donc il y a des gens qui apprennent vite, des gens qui apprennent lentement, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est son rythme, tu vois, mais il faut... Et donc on te dit, bah ok, on va se mettre au milieu, quoi. Donc tu te mets au milieu, mais le problème, c'est que si tu te mets au milieu, en fait, tu commences à descendre vers le bas. Mmh. Et donc l'école t'apprend à apprendre lentement. Et apprendre à apprendre lentement, bah malheureusement, ça donne pas une bonne mesure de l'efficacité. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on t'apprend le politiquement correct, on t'apprend le consensus, on t'apprend le fait qu'il faut pas se fâcher avec les autres, parce que si les mecs commencent à se mettre sur la gueule sur une classe de 30, bon bah tout d'un coup, c'est le bordel, quoi. Donc on t'apprend la politesse absolue et le fait de pas froisser les gens. Donc en fait, les trois quarts des gens, quand il s'agit de dire non, ils n'arrivent pas à dire non. Et donc en fait, les gens subissent leur agenda, subissent le monde extérieur, subissent leur environnement. Moi, je subis pas l'environnement et je pense que je suis bien meilleur d'ailleurs avec mon environnement quand je subis pas que quand je subis. Donc j'ai des règles d'agenda qui sont hyper strictes, que je tiens plus ou moins, que je tiens plus que moins, mais que je tiens plutôt pas mal, et qui me permettent d'être disponible, de répondre à mes emails, de saisir des opportunités qui parfois sont utiles, parfois sont complètement inutiles, mais que j'étais content de saisir, et puis voilà, quoi.
De faire des podcasts.
Ouais, de faire des podcasts, tu vois.
Mais parce que on pourrait, le fait de lire tous tes emails, finalement, c'est, est-ce que c'est pas dans un sens céder au fait qu'on va te solliciter en permanence?
Non, parce que
je pense qu'il y a des entrepreneurs
temps,
qui parlent du fait qu'ils vont pas lire une partie de leurs emails justement parce que ça leur permet de bloquer du temps pour faire autre chose.
Je me suis jamais retrouvé débordé par l'email. Mmh. Et je pense que je pourrais monter à 500, 600, 700 mails par jour sans que ça me pose un problème.
C'est aussi ce que tu disais là juste avant qu'on t'apprend à ne jamais dire non ou être en désaccord. Toi, t'es plutôt du genre à beaucoup donner ton avis.
Je suis et du genre à dire non très très vite. Moi j'ai deux, c'est simple, c'est vrai parce que c'est pas horrible, mais les entrepreneurs qui ont déjà reçu cette réponse vont comprendre. J'ai deux raccourcis sur mon clavier qui sont no deal, EN et no deal, FR. Il y en a un c'est en anglais, l'autre c'est en français. Et la phrase c'est malheureusement ce n'est pas un sujet qui nous intéresse, virgule, désolé. Le malheureusement ça veut dire attention, c'est une mauvaise nouvelle, et le désolé ça veut dire me relance pas. Et bah, je l'envoie assez vite aux gens qui me contactent pour me poser des deals. Et les gens, c'est con, mais ils sont hyper contents de recevoir une réponse rapide, tu vois, même si elle est négative. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si j'attends 15 jours et je lui dis non? T'imagines, je lui envoie une phrase, ça fait 15 jours qu'il attendait? Je passe pour qui, tu vois?
Parce qu'en plus, il y a une tendance, je pense, chez les gens, en tout cas chez moi, quand tu fais de la vente ou des choses comme ça, à... Tu vois, normalement, tu devrais... Tu contactes beaucoup de personnes et tu devrais appliquer des statistiques et des probabilités sur le fait que les gens vont te répondre, mais tu vas quand même avoir tendance à croire qu'un miracle va se passer. Si j'écris à.
Ouais.
Si j'essaie de faire une vente avec une grosse boîte et qu'ils me répondent pas, je peux toujours me dire, ouais, mais si jamais ils répondent, peut-être qu'ils vont bien vouloir. Et ça te bloque, en fait. Ça te bloque ton.
Alors, ça, c'est le principe de l'inaction, tu vois, décision, ça vient du latin décidere qui veut dire couper, tuer. Gérer son inbox pour arriver à l'inbox zéro tous les mercredis soir et dimanche soir, fixer des rendez-vous, dire non, prendre des décisions, c'est mettre les choses derrière soi. Il faut mettre les choses derrière soi. Tu vois, rien de pire que lancer 100 perches en pending et attendre que ça se passe. C'est horrible.
Toi, c'est quoi les moments de, du coup, vu que mercredi soir, dimanche soir, ouais, t'as inbox zéro, c'est quoi les moments où tu fais ton, où tu travailles le mieux, où t'es le plus productif?
Le matin. Je suis une machine le matin.
T'es un lève-tôt, toi?
Non,
alors,
j'ai jamais
6h45 quand tes enfants te réveillent, c'est ça?
En fait, j'étais pas un lève-tôt, moi, j'étais plutôt un lève-tard. Et puis, t'as des enfants, et puis, quand ton fils aîné dort pas pendant 2 ans, t'apprends à pas dormir. donc je me lève tôt parce que j'emmène les enfants à l'école et que je fais les biberons et que le deal avec ma femme qui bosse pas depuis fin 2011 et qui s'occupe d'eux la plupart du temps. Le deal le matin, c'est moi qui me lève, c'est moi qui fais les biberons, etc. Et d'ailleurs, en fait, toute cette partie organisation, c'est un workshop que je fais aux étudiants de Lyon là depuis la saison dernière et que j'aime bien.
Donc Lyon, qui est donc la formation
de The Family pour les employés de start-up. Et ce workshop, c'est comment s'organiser comme une machine pour vivre sa vie comme un humain. Mais en fait, c'est exactement ça. Les gens me disent, ouais, mais genre, tes rendez-vous, 40 minutes, c'est court. Un call, 20 minutes, c'est court. Comment ça, tu fais pas de déjeuner en dehors du bureau? Comment ça, tu prends pas de rendez-vous le matin? Comment ça, je sais pas quoi. Mais c'est un peu, tu vois, hyper machinal comme routine. Je dis, mais non, en fait, c'est parce que c'est hyper bien organisé, c'est parce que c'est discipliné que ça me donne du temps pour faire plein de trucs à côté, et ça me laisse du temps aussi même pour sortir de cette routine sans me sentir coupable ou sans me faire déborder, quoi.
Et qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, du coup?
Alors, en fait, le temps, il est organisé. Rien, parfois. Ça m'arrive. C'est assez sympa. Je prends pas de rendez-vous le matin. Je prends pas de rendez-vous tous les mercredis pour gérer les sujets de fond. Je fais une box zéro le mercredi soir, une box zéro le dimanche soir. Je fixe des rendez-vous de 40 minutes avec des slots de 20 minutes entre tous les rendez-vous. Parce que quand tu reçois des emails pendant que t'es en rendez-vous, si t'enchaînes les rendez-vous et que tu vois la gueule de ton inbox entre les deux rendez-vous, t'es plus focus sur le rendez-vous d'après, quoi. Donc je veux toujours avoir un peu de balance pour pouvoir gérer les petites urgences entre deux rendez-vous.
C'est ce que tu dis aussi pour les board meetings, de faire des sessions de 45 minutes et de couper entre les 45 minutes, ouais, parce que les gens vont perdre l'attention sinon.
Exactement, c'est essentiel ça. Et après des calls de 20 minutes, des rendez-vous qu'entre 14h et 17h, jamais après, parce qu'après 17h je suis une lock. Et donc c'est parce que je suis une lock à partir de 17h que je fais les tout doux un peu longue traîne qui sont là, qu'il faut que je torche.
Par exemple, classer les emails le mercredi et le dimanche.
Ouais, non, je fais ça le soir.
Ouais.
Je me cale à 21h devant mon ordinateur le mercredi, dimanche soir. Non, à partir de 17h, je fais de la lecture. Tous les sujets que je regarde et qui m'intéressent, je les mets dans Pocket. Enfin, de les sauvegarder. Et je les lis que en fin de journée à partir de 17h. C'est là que je regarde le deal flow. Et je fais pas de déjeuner en dehors du bureau. Je fais que deux déjeuners avec des gens extérieurs et tout le temps au bureau.
Par semaine.
Par semaine. Et en fait, tout ça, c'est des règles qui se sont accumulées les unes à côté des autres ou au-dessus des autres ou peu importe depuis que je suis chez Kima. Je suis arrivé chez Kima, je me suis fait éclater par le deal flow, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce que je fais là?
Il y avait trop de boulot.
En fait,
vous êtes une petite équipe.
T'as plein de boîtes. Tu vois, dans le deal flow, t'as 400-500 boîtes par semaine. Tu les tries. Tu dis, c'est sympa. Tu commences à prendre des rendez-vous. Puis ton agenda, ça devient, mais tu vois, tu stack up, mais des tonnes de rendez-vous, tu vois plein de gens. Et tu fais pas mieux le boulot pour autant. Au contraire, tu vois, t'as l'esprit hyper busy. Et tu dis, ok, bon, ça, c'est plus possible. Donc, il faut que je trouve des slots. Et donc, tu t'organises, tu vois. Donc, t'enlèves les slots du matin pour pouvoir être efficace, parce que c'est là que moi, je suis efficace, en tout cas. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que t'as beau faire ça, bah, tes rendez-vous, ça veut dire qu'ils sont bookés 4 semaines à l'avance. Mais qui book des rendez-vous 4 semaines à l'avance, tu vois?
D'ailleurs, j'ai entendu que, voilà, je perds son nom, l'investisseur Warren Buffett.
Ouais.
Si tu veux prendre un rendez-vous avec lui, il faut le prendre la veille. Et en fait, il ne va programmer un rendez-vous pour la semaine prochaine, pour dans deux semaines, pour dans un mois. Il faudra toujours l'appeler la veille. Et la veille, si tu l'appelles, il va dire, est-ce que j'ai envie de le voir demain? Oui, non. Et le mettre sur son agenda.
Ouais, c'est à peu près ça chez moi. Je suis plutôt avec un jour parce que j'aime pas me faire, j'aime bien avoir une bonne visibilité de l'agenda qui vient dans la semaine. J'aime pas trop fixer des trucs de 9 minutes, ça arrive, mais pas trop.
Ouais, en plus tes priorités et ton état d'esprit changent en permanence, donc quand tu prévois un truc pendant trop longtemps, il y a de fortes chances que le jour où t'arrives au rendez-vous, t'aies plus envie de le faire.
Entièrement d'accord. Et donc tu vois, Julie, l'assistante, elle a l'interdiction de fixer des meetings après 2 semaines. Et si j'ai trop de rendez-vous et qu'elle a oublié de fixer des rendez-vous après 2 semaines, c'est-à-dire que j'ai pris trop de rendez-vous. Ça, je me suis mal organisé.
Alors, vous avez une manière particulière en plus de fonctionner chez Kima, parce que vous êtes une toute petite équipe. Vous
4.
Êtes 4.
Ouais.
Et du coup, vous avez un peu start-upiser ou productiser votre fonds.
Productiser à mort.
Voilà. Et vous avez donc vous avez plusieurs produits.
Ouais.
Mais vous avez Kima Lab, c'est pour gérer la partie deal flow.
Tout à fait.
Donc ça, c'est une plateforme.
Ouais.
Et vous avez un autre truc qui s'appelle Kima Forward.
Ouais.
Qui est pour
portfolio
management. Et vous avez un système aussi d'introduction.
Ouais. Qui est dans Forward et qui est un système d'introduction anonymisé. Long story short. Comme on voit 400 deals par semaine, qu'on fait un deal tous les 3 jours, qu'on a 500 boîtes dans le portefeuille, et que notre métier, ou plutôt que la renommée de Kima va passer par sa réputation et non pas par sa performance, parce que c'est comme ça que ça fonctionne un fonds de seed, surtout que nous, on n'investit qu'une seule fois, on ne réinvestit pas dans les boîtes, il faut qu'on trouve un moyen d'accompagner. Tous les VC disent à leurs entrepreneurs qu'ils rencontrent, nous, au-delà du capital, nous allons vous apporter de l'accompagnement. Bon, alors d'abord, c'est mytho. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que leur métier c'est d'investir.
Mathématiquement, c'est pas possible. Ouais.
C'est pas possible. Et puis, putain, faut savoir ce que tu fais dans la vie, quoi. Soit t'es investisseur, soit t'es opérateur, mais dis pas que t'es investisseur et que tu vas supporter les boîtes dans leur développement. Les boîtes, elles ont un milliard de trucs à gérer. L'impact d'un VC, il est très faible, quoi. Donc, faut savoir dans quoi t'as un impact. Moi, je pense qu'un VC, il a de l'impact pour accélérer l'accès à des ressources auxquelles les entrepreneurs n'auraient pas pensé, pour les connecter à des gens qui sont passés par leur sujet et qui vont pouvoir les accompagner et qui vont pouvoir, je pense que le VC au-delà du capital, c'est quelqu'un qui est un altruiste, tu vois, qui à un moment donné prend l'entrepreneur et dit viens, on va se poser, on va poser la situation et je vais essayer de t'éclaircir le paysage pour que tu vois clair dans ce que tu dois faire demain. Et c'est ça le boulot d'un VC, c'est pas c'est pas d'opérer, quoi. Et donc nous en plus, donc non seulement on peut pas le dire parce que ce serait mytho, tu vois, que ça s'emboîte dans le portefeuille, mais ça nous empêche pas de nous dire bon, il faut qu'on trouve un moyen d'accompagner les boîtes et d'avoir une bonne réputation auprès de nos entrepreneurs. Et donc t'as que deux moyens, c'est soit de grossir, soit de scaler. Grossir on peut pas parce qu'on est quatre.
Et puis je t'ai entendu dire que Xavier Niel ne voulait pas grossir. C'est une histoire que tu racontais, que tu lui avais dit on pourrait faire plus d'argent si on grossissait.
Alors c'est pas une question de team. C'était une question de retour en fait, que j'avais dit à Xavier, pourquoi est-ce que on mettrait pas plus d'argent dans moins de boîtes avec une stratégie de refinancement, on aurait de meilleurs rendements, on gagnerait plus d'argent. Et Xavier m'a dit mais j'ai pas besoin de plus d'argent. Ouais, mais moi j'ai besoin de plus de caride. Mais non, mais les étoiles s'alignent quand les gens font bien leur boulot à la fin de la journée, je pense.
Xavier Niel, de loin, on a l'impression qu'il a vraiment une démarche honnête vis-à-vis du monde de la tech en France ou des startups avec 42, avec Kima.
À un niveau, en fait, je pense que les gens ne se rendent même pas compte. Un jour, j'ai déjeuné avec lui, un entrepreneur. Et l'entrepreneur lui dit « Ouais, pourquoi tu fais pas un peu plus d'assurance avec le mobile et tout ? L'assurance, ça crache. » Et Xavier le regarde et dit « Mais je suis pas là pour arnaquer mes clients. » Tu vois, l'assurance, c'est de l'arnaque. Moi, j'arnaque pas mes clients, putain, tu vois. J'ai pas fait Free 19,99 pour arnaquer mes clients. Je veux... Tu vois, c'est une marque, ouais, alors évidemment c'est pas cher, donc parfois ça peut paraître low cost, mais la réalité c'est que c'est une marque noble, quoi, tu vois, je veux fournir ce service, ce beau service à mes clients. Et il dit ça, il du tac au tac, quoi, tu vois, il se fout pas de ta gueule, hein. Et moi, les trois règles, je sais pas pourquoi, mais je me suis, à force de bosser avec Xavier, je me suis dit, en fait, les trois règles qui sont importantes quand tu bosses avec un mec comme Xavier, c'est d'être sympathique, honnête et efficace. A priori, si tu respectes ces trois règles et que tu fais bien le travail, normalement ça devrait bien se passer. Et donc ça revient à ce principe dont tu parlais d'honnêteté. Moi, je crois que, enfin, tu vois, ouais, Free, c'est quelque chose, tu vois, auquel il fait très 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 attention, quoi.
Toi, c'est quelque chose qui te parle, ce côté honnête, parce que tout à l'heure on parlait du fait justement que tu avais quitté ton activité de lever pour... C'était justement un choix de conscience, en fait, que tu avais fait partir.
Complètement.
Donc là, tu t'y retrouves dans cet état d'esprit ?
Ouais, énorme. Moi, je bosse pour les entrepreneurs. D'ailleurs, je sais pas, il y a un entrepreneur qui m'a fait un mail tout à l'heure, qui m'a dit Jean... Je sais pas, donc on close un deal avec d'autres investisseurs, d'autres co-investisseurs un peu gros de la place. Il me dit bon, à partir de quand tu veux que je te mette dans la boucle, est-ce que tu veux te mettre dans un négo, etc. Je lui dis non, appelle-moi quand il faut signer et closer. On verra que... Enfin, tu vois, on regardera. Mais surtout, appelle-moi si t'as besoin d'un coup de main dans ta négo avec les autres investisseurs, quoi. Nous, on bosse pour l'entrepreneur. Parce que le seul moyen pour Kima de gagner de l'argent, c'est que les entrepreneurs en gagnent énormément.
Et le moment où vous donnez les 150K aux entrepreneurs, c'est Xavier Niel qui fait le paiement avec son doigt, c'est ça?
En fait, on a lancé un système, parce que le truc, c'est qu'on fait des paiements en euros, des paiements en devises. Et quand on valide un deal... On envoie un mail à Xavier, donc pour valider le fait qu'on va faire un deal. Il dit OK. Ensuite, on fait le signing, le virement. Et le virement, il faut qu'on l'envoie à sa holding, tu vois. Donc, Muriel qui s'en occupe, qui a déjà pas mal de trucs à gérer, hein, tu vois, jour le jour, reçoit ça. Il faut qu'elle processe le virement, etc. Tu vois, c'est galère. Et donc, on a financé Iban First il y a pas longtemps, qui nous permet d'envoyer, de recevoir de l'argent dans n'importe quelle devise au cours spot instantanément. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est plugué sur leur API. 48 heures, on a développé un petit système qui s'appelle Kima ATM. Bon, on aurait pu l'appeler autrement, je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça, mais c'était rigolo. Et en fait, là-dessus, on met les docs qui valident le deal, qui sont envoyés en parallèle au back-office de Iban First, en parallèle à notre compta, qui envoie l'ordre de virement. Et quand Muriel ou Xavier s'authentifient, le virement part.
C'est le VC du futur.
C'est le VC tel qu'il devrait être.
Toi, tu vois énormément, du coup, de fondateurs de start-up.
Ouais.
C'est early stage.
Ouais.
Et ce qui me permet de te demander, en fait, qu'est-ce que tu t'entends répéter tout le temps? Quelles sont des erreurs qu'on aurait tendance à faire les entrepreneurs tout le temps?
Alors peut-être que cette réponse changera avec le temps, mais là, instinctivement, ce qui m'a marqué ces derniers temps, c'est ce que je leur dis, c'est l'attention au client, le focus et la règle des petits pas. L'attention, tu vois, là, j'avais trois entrepreneurs, ils sont pris en interview YC, ils me parlent de leur boîte.
Y Combinator.
Ouais, Y Combinator. Et donc, ils me parlent des questions qu'ils vont recevoir pendant l'interview. Et du fait qu'ils sont en train de préparer leur interview. Mais je leur dis, ok, c'est bien, vous préparez votre interview. Effectivement, il faut donner les réponses auxquelles les gens s'attendent. Mais la réalité, c'est que plus tu donnes des réponses auxquelles les gens s'attendent, et plus tu te fourvoies, plus tu te prostitues face aux gens extérieurs qui sont pas tes clients, et moins tu as de chances de réussir ta boîte. Si tu veux réussir ta boîte, il faut que tu fournisses un produit de taré, avec une expérience de malade, à des consommateurs qui sont ravis d'utiliser et ravis de payer pour. Il n'y a que ça qui compte dans la vie. Le principe d'une boîte, c'est de servir des clients. Fin de l'histoire. Et donc, il faut rester obsédé par ça. Et les gens, en fait, les entrepreneurs, ils commencent avec une idée, à un moment donné, ils servent le client, et puis tout d'un coup, tu vois, ça se diffuse à droite, à gauche, on explore des pistes. Donc moi, je dis, reste focus sur ton besoin client et sur l'importance de lui fournir la meilleure expérience, le meilleur produit avec un modèle qui tienne la route. Rester focus. Et en fait, et trois, et ça, je me rends compte, mais beaucoup, les gens s'éparpillent, quoi. En fait, je leur dis, mais putain, en fait, juste, l'entrepreneuriat, c'est une espèce de marathon qui se court en plein de petits sprints. Donc, faut.
Ça, c'est les petits passes, hein.
Ouais, faut torcher les milestones, les petits milestones les uns après les autres. S'il y a un sujet qui est trop gros, trop lourd et tout, tu le découpes. Faut le découper. Faut pas attaquer des montagnes. Personne ne monte l'Everest en regardant le sommet. Tu montes l'Everest en regardant la pierre d'après, quoi. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et les gens s'en rendent pas compte. Et d'ailleurs, c'est même le purpose de la vie, tu vois. Si tu veux à un moment donné réussir ta vie, c'est pas en prenant des raccourcis pour aller choper des gros wins tout de suite, tu vois. Ouais, ça peut exister, c'est possible. Et peut-être que ça te fera gagner plus d'argent ou ça te permettra d'accéder d'être président à 39 ans, mais à un moment donné, la règle de vie, c'est que t'as un purpose, il est un peu long terme, c'est un grand axe, et le seul moyen d'y arriver, en fait, tu fixes ce futur-là, et en fait, ton futur est autant déterminé par ce que tu fais dans le présent, que ton présent est déterminé par ce que tu veux bâtir dans le futur. Et ça, c'est une boucle permanente de double causalité qu'il faut nourrir de petites actions et qui, mis bout à bout, t'en font réussir. Et donc, moi, je passe mon temps à expliquer ça aux entrepreneurs. Et ensuite, les mecs, ils lèvent de l'argent. Pourquoi tu lèves? Pourquoi faire? Faut rester lucide face à l'argent, quoi.
Ouais, parce qu'il y a une... on en parle pas mal sur ce podcast, mais depuis quelques années, il y a quand même une starisation de l'écosystème startup.
Ouais.
Et... aussi, le côté, je pense que c'est rassurant de lever des fonds dès le début de ta boîte parce qu'il y a une validation qui vient de ce que tu fais.
C'est horrible d'être entrepreneur. Tu débarques à un dîner, les mecs te disent, tu fais quoi dans la vie? Tu suis entrepreneur. Et en fait, tu sais pas si les gens te regardent avec admiration ou avec compassion. En fait, il y a plutôt de la compassion dans leur regard parce qu'ils savent que tu as beaucoup de chances d'échouer et que là où tu es, vraisemblablement, au moment où tu leur parles, c'est zéro. C'est nulle part. Et puis un jour, il y a BFM TV qui t'appelle, qui te demande de faire le morning, et puis tu postes ça, puis tu vois, ils t'ont bien maquillé, puis t'as une bonne gueule à la télé, et puis putain, c'est marrant, t'as bien répondu aux questions. Mais en fait, c'est normal, c'est le métier du journaliste de te poser les questions auxquelles tu vas bien répondre, parce que lui, son métier, c'est de s'assurer que le show, il tourne, quoi. Et tu te laisses emporter, quoi, tu te laisses griser par ça. Et effectivement, c'est un piège. Moi, les boîtes qui marchent le mieux chez moi, c'est les moins médiatiques. Et c'est les quatre boîtes dans lesquelles on est au board, là, qui cartonnent. Et c'est un carnage, elle marche super bien et ils ont pas besoin de ça, ils vont chercher la satisfaction chez le client, pas chez le média.
Il y a un autre truc que tu disais qui était intéressant, je trouvais, c'est de rester concentré sur ce que tu appelles leur primitive.
Ouais.
Aux boîtes. Moi, je t'ai entendu parler de ça par rapport à Facebook et Snapchat et au fait que Snapchat sont restés focus sur leur caméra et sur leur produit, qui est leur core produit. Et Facebook ont une tendance en ce moment à faire tout et n'importe quoi.
Bah, Facebook maintenant est un gros bousin, donc en fait, t'es sur un play stratégique où si tu fais tes produits en fonction, enfin si tu fais tes produits pour servir ton consommateur de la plus belle manière qui soit, tu feras pas les niveaux de croissance qui sont exigés par le marché. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de faire des plays stratégiques qui sont beaucoup plus violents, d'où leur play plateforme sur Messenger, d'où leur play plateforme sur la VR. Ouais,
copie de stories.
Ouais, c'est un peu salace. Mais bon, c'est comme ça qu'ils vont faire du cash, quoi. Mmh. Et donc, la primitive. Donc, en fait, ce que je dis à toutes nos boîtes consumer, c'est de se concentrer sur trois choses et de jamais les oublier d'essayer de les reprendre de manière régulière. C'est narrative, primitive, enablers. Et pour la faire courte, la narrative, c'est quel est le comportement durable, profond et authentique sur lequel tu bâtis ton produit et l'usage de tes consommateurs. Et ça, c'est hyper important parce que c'est le seul moyen de faire quelque chose qui est profond dans la, qui marche dans la durée, tu vois.
Donc, par exemple, Tinder, c'est l'ego.
Tinder, c'est l'ego, ouais. Snapchat, c'est l'authenticité, c'est la réalité. Parce que t'as pas de mesure de popularité, elle n'est que pour toi sur Snapchat. Parce que les gens voient pas combien de personnes ont vu tes stories.
Et Instagram, ce serait quoi, la perfection?
Ouais, c'est ça. Ah. Complètement.
Bah, j'ai vu juste.
Ouais, exactement ça. Et donc, cette narrative, c'est tu penses à une toile d'araignée. La primitive, c'est ce qui est au corps. Et en fait, la primitive, c'est quelque chose qui doit se suffire à elle-même. Tu vois, chez Snap, c'était la caméra éphémère. Chez Snap, chez Instagram, c'est le filtre. Chez Tinder, c'est le match. Chez Facebook, c'est le newsfeed. C'est ça, la primitive de ces boîtes-là. Et si tu regardes toutes ces boîtes, elles passent leur temps à améliorer cette primitive, tu vois, à la renforcer. Et souvent, les entrepreneurs, en fait, ils chopent cette primitive de manière un peu inconsciente. Ils buildent de manière aussi tout autant inconsciente, en fait, la narrative autour de la primitive qu'ils ont craqué. Mais en fait, très vite, ils s'éparpillent dans les enablers. Or, les enablers, ce ne sont que des features dont le but est d'harmoniser, d'améliorer, de renforcer l'expérience autour de la primitive pour que la narrative s'exprime de manière hyper forte.
Donc, dans mon cas, la primitive, ce serait les épisodes audio, les podcasts. Si je devais prendre Nouvelle École comme une start-up, par exemple. Parce qu'il y a plein de choses qui vont à côté. Il peut y avoir des articles, il peut y avoir.
D'abord, c'est quoi la narrative sur un sujet comme le tien?
Sortez des sentiers battus.
Ok. C'est quoi le meilleur moyen de faire ça?
D'inspirer les gens et d'élargir leurs perspectives. En justement leur apportant plein de perspectives différentes.
Ok, donc si ça se trouve, c'est pas le podcast, c'est plutôt le format, quoi. Mm. Et le format, aujourd'hui, tu utilises le podcast parce que c'est un format qui peut-être est le mieux identifié, le plus pratique, etc. Si ça se trouve, demain, tu vas te retrouver à faire plutôt à la Startup Begins, des épisodes un peu plus courts parce que l'attention span des gens est plus court, tu vois. Tu vois Black Pills, ce qu'ils ont fait. Black Pills, c'est l'espèce de Netflix mobile fait par Daniel Marelli et Patrick Holtzman, qui est financé par Xavier Niel. Et ils font des mini-séries de 10 épisodes de 10 minutes chacun, que sur mobile, et c'est très orienté millennials. Là, c'est t'adaptes exactement ton produit et ta primitive au nouvel usage des gens, tu vois. Et le problème aujourd'hui de l'éducation et notamment, enfin, en général et du contenu, c'est que il y en a en multitude et qu'on a un faible taux d'attention. Je sais pas le nombre de gens qui écoutent ton podcast jusqu'à la fin, tu vois, mais je prends celui que j'ai écouté hier de Nicolas de Doctrine. J'ai commencé à l'écouter et puis au bout d'une demi-heure, je me suis fait récupérer par mon fils qui m'a demandé un truc. Et donc, j'ai dû m'arrêter, je pense, au bout de 35-40 minutes, tu vois, il me restait encore, je sais pas, 20 bonnes minutes ou un truc comme ça. Ça, c'est le piège du format. Donc, en fait, si tu voulais améliorer, renforcer, travailler ta primitive, tu chercherais le format le plus idéal pour justement débloquer cette connaissance de la manière la plus forte qui soit. Quoi. Ouais, donc la primitive, c'est le format. Et après, c'est tout ce qui va autour.
Parce que là, on est déjà à 50 minutes.
Ouais, désolé.
Mais non, mais c'est bien. Juste pour parler futur et tendance, vu que toi, t'investis.
Ouais.
C'est laquelle la plus grosse macro tendance, enfin, je sais pas, est-ce que c'est la VR, la réalité augmentée pour toi? Quelle est vraiment la tendance qui va...
Les deux grosses tendances qui maintenant sont évidentes, quoi.
Ouais, le machine learning et l'AI aussi, peut-être.
Ouais, l'AI, mais l'AI au sens généraliste, c'est-à-dire actionné, tu vois. Nicolas Doctrine parlait beaucoup d'AI dans le podcast. C'est un peu un abus de langage, en fait, parce que c'est plutôt du machine learning et c'est plutôt de la... Tu vois, c'est de l'engineering assez classique, quoi. L'AI, c'est quand la machine surpasse l'humain dans l'interprétation d'une information, quoi. Ça, c'est ultra violent comme, comme c'est ultra violent.
Bah d'ailleurs justement, il ouais. Y a une boîte de ton de la culture au board qui s'appelle Source.
Ouais.
Et en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est le code qui t'aide à coder, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Et donc, ce qui nous amène à penser que ça va être le code qui écrit le code tout seul au bout d'un moment.
C'est exactement ça. Et c'est important parce qu'en fait, les développeurs passent. Je sais pas si c'est réel, mais en gros, c'est 70-80% de leur temps à architecturer et à concevoir et que 20-30% de leur temps à coder. Mmh. Et donc, le temps que tu passes à c'est comme la lecture rapide, tu vois. Si j'avais une méthode pour te concentrer de manière certaine pour que tu puisses faire de la lecture rapide, les gens ne feraient que de la lecture rapide. Parce que c'est un moyen beaucoup plus efficace de mémoriser, beaucoup plus fort, parce que ton attention est extrêmement forte, quoi. Ça a le même impact que de la lecture lente 5 fois moins vite. Alors pourquoi est-ce qu'on lit pas 5 fois plus vite, tu vois? C'est débile. Bah rien, parce qu'en fait, t'as pas le tool pour le faire. Sur le code, t'as un peu cet effet-là. Si j'étais capable de te faire comme SwiftKey, de te dire le prochain mot qu'il faut que tu mettes, et qu'en fait ton cerveau est juste à processer, faire ah oui bien sûr, tac tac, et donc tu serais beaucoup plus rapide, et donc pendant que tu codes, t'arriverais beaucoup plus facile à avoir la représentation de ce que t'es en train de faire. Et donc le principe de Sourced, et ça c'est de la vraie AI, ils analysent le code source des développeurs du monde entier, qui clusterisent. Alors le cluster, c'est un truc hyper important dans les réseaux de neurones, parce que quand tu fais de l'AI, on dit souvent plus le set de data est important et plus t'arrives à développer des règles qui permettent à l'AI d'être performante. En fait c'est pas vrai, parce que plus le set de data est important et plus, en fait, oui, c'est vrai pour traiter la donnée, mais la réalité, c'est que il faut que tes règles s'appliquent sur des clusters qui soient plus petits. Parce que plus ton cluster est gros, plus tes marges d'erreur sont fortes. Et en fait, une erreur fois une erreur fois une erreur fois une erreur, à la fin, ça fait zéro, quoi. Mmh. Et donc, ce que fait Source, c'est qu'il clusterise le code des développeurs du monde entier en fonction de, je sais pas moi, cybersécurité, plein de trucs. T'as des milliers de thèmes. Il crée des modèles uniques. Donc, par exemple, tu prends Docker, les 40 gigas de Docker, c'est rentré dans un modèle source. Ils te sortent un modèle qui fait 1 méga, tu le poses dans ton IDE, et pendant que tu codes, source va te suggérer du code, et des snippets de code, pour pouvoir coder plus vite, quoi.
Et, toi, t'as 3 enfants?
Ouais.
Et est-ce que c'est un truc qui t'inquiète pour tes enfants plus tard, le fait que justement on arrive à un stade où les machines commencent à vraiment faire le boulot des humains?
Non, pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme l'éducation est, comme l'éducation actuelle, et même juste globalement, la société est en retard sur ce qui est en train de se passer, quoi. Enfin, j'espère que ça va pas être trop violent et que ça va se faire de manière assez naturelle. Moi, je suis persuadé que mes enfants font pas d'études, par exemple.
Que tu les enverras pas à l'université ou...
Non, ça n'a aucun sens. En fait, la raison pour laquelle t'emmènes les gens à l'université, c'est pour qu'ils se retrouvent entre pairs et qu'ils se stimulent et qu'ils aient affaire à des professeurs qui leur donnent la connaissance. Les gens, ils vont à Stanford, pas pour les cours de Stanford. Les cours de Stanford, ils ont sur les différentes plateformes, etc. Ils ont pour se retrouver entre pairs, pour se stimuler, parce que c'est de là d'où germe les projets, etc. Et bah, je pense que demain, Stanford ne sera qu'un enabler physique de quelque chose qui existera, et qu'en fait, tu prendras 200 000 personnes qui, à un moment donné, l'école n'a aucun sens aujourd'hui avec les, c'est fini. Dans 10 ans, moi, mes enfants, je suis désolé, ils iront pas à HEC. Et j'irai pas payer HEC, pour mes gosses, quoi. C'est mort.
Tu penses que tu feras comment, du coup?
Déjà, mon rêve aujourd'hui, ça aurait été capable de pouvoir faire du homeschooling en partie et avoir des activités beaucoup plus, en groupe, qui justement soient centrées autour de la dynamique de groupe. Tu vois, il y a un bouquin qui est exceptionnel que m'a conseillé Firmin, le mec de PFIT, qui s'appelle The Five Dysfunctions of a Team, qui explique des dysfonctions qui arrivent dans les boîtes à partir de 20, 30 personnes et plus, et qui sont des problématiques de base sur le fait que les gens se font pas confiance, que comme ils se font pas confiance, ils osent pas rentrer en conflit, comme ils osent pas rentrer dans le conflit, bah, ils se rendent pas accountable pour les actions qu'ils font, etc., etc. Et la dynamique du groupe, elle sert à ça, et c'est important que les enfants en prennent conscience très tôt. À l'école, les enfants, entre eux, ils sont franchement cruels, quoi. C'est chaud. Et les profs gèrent l'école comme une espèce de grand groupe. mais très homogène, quoi. Et en fait, on bosse pas du tout les principes de trust, enfin de confiance, de tout ce qu'il peut y avoir de sain dans le conflit, de s'entraider, de se rendre responsable l'un vis-à-vis de l'autre, etc. Et franchement, si on faisait ça très tôt, mais ça changerait même la dynamique de la société. On n'aurait pas des situations, bref, tu vois, complètement aberrantes comme celles qu'on a aujourd'hui dans les élections, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs, quoi. Donc il manque dans l'éducation cette dynamique de groupe. De la même manière qu'aux États-Unis, ils ont quelque chose qui est très bien, mais qui pousse un peu fort, c'est le lundi matin, les gens viennent pitcher le week-end, tu vois. Les entrepreneurs, c'est des pitchers de rêve. Mmh. Moi, je vois, mes enfants, ils partent aux États-Unis 2-3 mois par an. Et voilà, ils pitchent mieux que les autres, tu vois. Ils sont en storytelling, ils expliquent et tout. Tu rajoutes à ça la dynamique de groupe, à mon avis, tu fais un carnage, quoi.
Les Américains, ils ont cette différence par rapport aux Français, qu'ils apprennent vraiment à se vendre en permanence.
Ouais.
Et qu'en fait, quand tu vas aux États-Unis, tout le monde fait un truc génial dans la vie. Tu parles ouais. aux gens et ils disent oh, moi je suis artiste, moi je fais des vidéos, moi je monte une boîte. Et moi, quand la première fois que j'y suis allé donc à San Francisco il y a quelques années, je me suis dit ouais, mais moi je suis une merde.
Ah,
je fais rien du tout.
Et ils t'ont dit qu'ils étaient malheureux aussi ou pas?
Je l'ai su un peu plus
ouais.
tard.
C'est marrant ça.
Comment tu fais toi pour mesurer ton progrès? Pour te dire que tu fais du bon travail ou que t'es performant?
La mesure du progrès, c'est vaincre ses inefficiences et jamais se contenter de ce qui est dans ton agenda classique. Moi, j'ai un mandat qui est de faire 100 deals par an dans le monde entier et de préserver la réputation de Kima et de Xavier par extension. Ça me suffit pas, quoi. C'est pour ça qu'on fait Kima Forward, c'est pour ça que Rose bosse sur Kima Circles, c'est pour ça qu'Alexis bâtit les outils. C'est pour ça qu'on a fait des deals de série A avec Xavier. Et en fait, si à un moment donné, je me rends compte que un mois donné, on n'a pas progressé, on n'a pas fait quelque chose de plus par rapport au mois suivant, bah c'est qu'on n'est pas dans le progrès, quoi. C'est tout simple. Hein.
Si je te dis, ça c'est les questions que j'ai piquées sur des podcasts américains.
Vas-y.
Si je te dis succès, tu penses à quoi? À qui en premier?
Ah oh, putain, j'en ai aucune idée. En plus, j'aime pas ce mot succès parce que il est souvent relié à une perception qu'ont les gens de quelqu'un d'autre. Alors que le succès, c'est quelque chose qui doit être personnel. Le succès, ça peut être un agriculteur qui fait de beaux légumes, et le succès, ça peut être un businessman comme Xavier Niel qui a monté énormément de choses, quoi.
Donc c'est intérieur.
C'est intérieur, ouais. Complètement.
Tu disais que entre 25 et 30 ans, tu savais pas vraiment ce que tu allais faire de ta vie ou ce que tu voulais faire.
Ouais.
Et maintenant, c'est mieux. Tu sais mieux.
Maintenant, déjà, je me défocus pas sur des. J'entreprends plus. C'est fini. J'ai arrêté ces conneries.
C'est pas un truc que tu veux refaire plus tard?
Non, je me dis que j'ai plus intérêt à devenir exceptionnel dans la manière dont j'accompagne ces entrepreneurs et que D'abord, je suis plus heureux et j'aurai plus d'impact à être un enabler pour les entrepreneurs qui sont très forts dans ce qu'ils font. Je pense à des mecs comme Antoine Martin chez CNLI. Ils m'ont encore parlé d'un truc il n'y a pas longtemps et je me suis dit, putain, mais lui, c'est Billion Dollar Founder, quoi. Donc, comme Firmin. Firmin Zocchetto, c'est un ovni. Donc maintenant, je prends mon pied à accepter la place que j'ai, qui est une place qui n'est pas de créateur, qui n'est pas d'entrepreneur, qui est d'enabler et que je respecte, quoi.
Question Facebook,
ouais.
Entretien Facebook.
Vas-y.
Qui est marrante. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur?
Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur?
Ouais.
Je sortirais mes enfants de l'école. Et je partirai 6 mois de l'année ailleurs dans le monde.
Habiter dans des endroits différents?
Ouais, j'aurais passé, je sais pas, un mois à LA, un mois à Bali, un mois à Barcelone. J'irai ailleurs, quoi, je me casserai. Je dirais à ma femme, ok, banco, on prend une nounou, anglaise avec nous, on fixe le programme, on se casse.
On vit que dans des Airbnb?
On vit que dans des Airbnb. Mais après, t'as la peur d'avoir des enfants complètement fucked up, quoi, tu vois. Donc, c'est, en fait, c'est ça ma peur. Ma peur, c'est pas de me tirer, tu vois. Je suis sûr que je pourrais même faire le métier à distance. Mais, ce serait d'avoir des enfants complètement fucked up par le changement permanent. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts. Ils ont besoin de repères, quand même.
Dernière question. Tu dirais quoi, à Jean, à 21 ans, à la fac?
Oh, putain. Mec, si tu savais le nombre de mecs de 21 ans, mais qui sont, mais loin, 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 loin devant, quoi. Juste prends exemple, quoi, tu vois, et arrête de faire un milliard de choses. Sois plus rigoureux, sois plus consistant, termine les choses et après fais la suivante, quoi. Merde. Ouais.
Merci beaucoup, Jean.
Merci à toi.
Et bah, ça sort bientôt. Et merci pour l'épisode. Pour que les gens puissent te retrouver,
ouais,
sur Twitter déjà.
Ouais, 2LR, le chiffre 2LR.
Très bon handle en 3.
Ah ouais.
Pour être excellent. Et sinon, bah, Kim Adventures.
Ouais, et Jean at Kim Adventures, pareil.
Merci beaucoup.
Merci, salut.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu et j'en suis ravi. Si c'est le cas, partagez-le à un ami qui pourrait aimer. Ensuite, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes, références et petites histoires autour de l'épisode. J'attends vos réactions dans les commentaires. Nouvelle École revient lundi prochain avec un autre invité de marque. À la semaine prochaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.